Et comme tous les vendredis, vous êtes les bienvenus dans le Club des Têtes au Carré. Nous revenons sur l'actualité scientifique. Au programme de nos discussions cet après-midi, la naissance de bébés crocodiles nains à Pierrelatte dans la Drôme. L'Agence spatiale européenne qui a dévoilé le site d'atterrissage de la mission Rosetta sur la comète Churyumov. L'identification de nouveaux gènes favorisant la maladie d'Alzheimer. Un dictionnaire des nouveaux mots de notre langage courant. Et les collections de géologie de l'Université de Lyon qui ouvrent exceptionnellement leurs portes ce week-end pour les journées du patrimoine. Pour évoquer tous ces sujets, je suis en studio avec l'astrophysicien Francis Rocard, l'épidémiologiste et directeur de la Fondation Alzheimer Philippe Amouyel et l'écrivain Alexandre Désinard. Bonjour.
Bonjour
à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis nous serons en ligne tout à l'heure par téléphone avec le vétérinaire Samuel Martin et le paléontologue Emmanuel Robert. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Violaine Ballet réalise ce club des têtes au carré qui a été préparé par François Mercier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et YouTube avec Sunday Bloody Sunday pour démarrer ensemble ce club des têtes au carré.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La naissance de crocodiles nains, des nouvelles de la comète Churyumov-Gerasimenko, de nouveaux gènes identifiés de la maladie d'Alzheimer, les nouveaux mots du langage courant qui sont consignés dans un dictionnaire, et puis les journées du patrimoine avec l'ouverture exceptionnelle d'une collection de géologie. Voilà les sujets dont nous allons parler cet après-midi. Mes invités, l'astrophysicien Francis Rocard, l'épidémiologiste et directeur de la Fondation Alzheimer Philippe Amouyel, l'écrivain Alexandre Désinard, le vétérinaire Samuel Martin et le paléontologue Emmanuel Robert. Vos messages, donc franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Et nous allons commencer en ouvrant le carnet rose de l'émission avec vous, Samuel Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis la ferme aux crocodiles de Pierrelatte dans la Drôme.
Tout à fait.
Vous êtes le vice-président pour l'Europe et l'Afrique de l'Ouest du groupe des spécialistes des crocodiles de l'Union mondiale pour la nature.
Oui.
Et vous nous faites part officiellement de la naissance de crocodiles nains du Gabon, c'est ça?
Alors, plus généralement d'Afrique. Hein. Ceux-là sont... C'est une souche qui vient du bassin d'Ogoué, donc c'est Nigeria-Bénin.
Oui.
Voilà, mais on les rencontre également au Gabon. Et les dernières analyses génétiques ont montré en fait que ce qu'on pensait être une seule et même espèce sont en fait quatre groupes distincts. Alors on n'a pas encore décidé si ce sont des espèces à part entière, des sous-espèces, mais en tout cas ce sont des groupes d'espèces. Et nous avons depuis ce matin la joie de vous annoncer la naissance de quatre petits bambins de 18 cm, 80 grammes, qui sont extrêmement mignons.
C'est vrai, la maman se porte bien ?
La maman se porte bien, alors ça fait un moment qu'elle les a pas, qu'elle n'avait plus eu de lien, puisqu'elle elle a pondu ses œufs il y a à peu près 3 mois, même hier, c'était 3 mois jour pour jour, 90 jours. Nous on est allé les récolter, ces œufs, et puis on les a incubés de façon artificielle, parce que c'est la façon dont on procède traditionnellement sur les autres espèces.
Donc il n'y aura pas présentation à la maman, a priori ?
Oui, plus tard, une fois qu'ils auront commencé à s'alimenter, on va les présenter à la maman, et puis...
Faut pas qu'elle les mange.
c'est vrai que c'est toujours une petite inquiétude, parce que parfois, en parasitologie, on peut avoir des comportements paradoxaux, ça c'est un premier point, et puis... on a souvent l'idée reçue que toutes les mères de la Terre sont des bonnes mamans comme ça. Et en fait, le comportement maternel n'est pas toujours équivalent en fonction des individus. Et ça s'apprend un petit peu. On l'accompagnera dans cette tâche.
Bon, donc là, ils sont quatre pour l'instant, mais vous en attendez d'autres, je crois.
Alors, ils sont même depuis qu'on vous a transmis l'information, il y en a cinq autres qui sont nés.
Ah, d'accord. Et ça va très vite.
Oui, ils sont neufs là depuis la fin de la matinée. Voilà.
Bon, et Samuel Martin, à quel moment vous savez que les petits vont arriver alors pour l'éclosion des œufs, comment ça se passe ?
On sait qu'ils commencent à naître au moment où ils commencent à piailler dans l'œuf, et à ce moment-là, on voit apparaître ils commencent à percer la coquille, et là ils s'appellent les uns les autres, et là on sait que c'est imminent. Hein. C'est comme ça qu'on a commencé. On avait dans l'idée qu'au départ, on mettrait ce qui traîne dans la littérature, c'est 70-80 jours d'incubation. Oui. Et donc, moi, mon soigneur, là, Stéphane, le chef animalier, il m'avait dit, il faut attendre, ne perds pas espoir, parce que je fondais des gros espoirs pour ces jeunes animaux, parce que je souhaite les réintroduire dans le milieu naturel, on en reparlera après. Et voilà, on a attendu 10 jours de plus et l'heureux événement est arrivé, a commencé hier.
Bon, donc Samuel Martin, les bébés vocalisent entre eux, hein, c'est ça hein.
Et voilà, ils vocalisent, les crocodiliens font partie des rares espèces à pouvoir émettre une large gamme de sons qui leur permet à la fois de communiquer entre eux, entre une même fratrie, et puis avec les adultes.
Et il paraît que vous êtes un très bon imitateur de bébé croco, c'est vrai ça ou pas? Vous allez nous faire le piaillement alors du petit?
Oui, alors c'est un petit cri qui fait comme ça.
Ah, c'est très mignon.
Qui est assez particulier, qui, on le constate, déclenche immédiatement chez les adultes des réactions immédiates.
Bon, et donc ça, c'est multiplié par 9. Hein, on imagine
et
un petit peu l'ambiance
par 9
dans le berceau.
C'est très mignon. Et d'ailleurs, je voulais vous proposer à l'émission de parrainer ces jeunes bébés. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable, d'envisageable ?
Mais bien sûr, et grand plaisir.
Voilà, parce que c'est une espèce qui, à mon sens, est importante sur le plan scientifique. Encore une fois, l'espèce est menacée dans le milieu naturel. On est lié à un programme de conservation au Bénin. Je pense que ça a beaucoup de sens que la Tête au Carré, qui porte régulièrement de la vulgarisation scientifique.
Ça nous fait très plaisir, Samuel Martin. Donc, on va leur donner le prénom de chacun des membres de l'équipe, voire de nos invités aujourd'hui. Si vous avez besoin de prénoms supplémentaires, ils seront ravis, en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis, comme ça, on pourra prendre des nouvelles régulièrement de nos filleuls.
Exactement.
Merci beaucoup, Samuel Martin. Donc, la naissance de ces 9 petits crocos qui vont retourner en Afrique. On aura l'occasion d'en reparler, puisque vous allez justement les remettre au Bénin, je crois, hein, dans le cadre d'un programme.
Oui, au printemps prochain, on organise une rencontre de tous les acteurs de conservation ouest-africains. Et à ce moment-là, on en profitera pour faire le transfert.
Et nous sommes des parrains et marraines heureux. Merci beaucoup à vous, Samuel Martin.
Merci à vous.
Pierre Latte, donc dans la Drôme, pour ceux qui souhaitent découvrir la ferme aux crocodiles. Bonne journée à vous, au revoir.
Au revoir.
Voilà, Francis Rocard, on va s'arranger pour que l'un des petits crocos porte votre prénom.
Je serais ravi.
Voire de Rosetta, on pourrait imaginer aussi qu'il y a une petite feuille qui s'appelle Rosetta. On connaît depuis lundi le site d'atterrissage du module Philae, qui fait partie de cette mission Rosetta, en route vers cette comète Churyumov-Gerasimenko. Vous êtes le responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, Francis Rocard, et vous supervisez Rosetta, cette mission de l'ESA. Après un voyage de 10 ans, donc, la sonde spatiale arrive au terme de son périple. Ce sera pour vraiment là, le mois de novembre. Et le choix s'est fait ce week-end du site d'atterrissage. Racontez-nous comment s'est passé ce choix, parce que ça a mobilisé quand même 80 scientifiques à Toulouse. Vous avez cogité pour trouver l'endroit idéal sur la comète.
Eh bien, on a tiré des plans sur la comète.
Voilà,
pour
et
une
vous,
fois,
et
c'est
vous avez
vrai.
Bien tiré.
On a bien tiré. Ouais. On a fait des beaux plans. On a regardé des sites. En fait, on avait différents critères. Le critère évident, c'est la planéité du site. On a une ellipse d'erreur qui fait à peu près 1 km sur 300 mètres, donc c'est grand. Mm-hmm. Pour ceux qui s'en souviennent, la tête du canard ne fait que 2,5 km de diamètre.
Il y a une tête de canard sur la comète. Donc,
La comète a une forme de canard avec une tête et un corps. Donc, mm-hmm. On a l'habitude de parler de head and body, de corps et de tête. Et donc, on va se poser sur la tête.
Ouais. Et donc, la tête est plate hein ?
Pas très plate. En fait, la comète ne nous aide pas beaucoup. On n'a aucun site idéal et parfait. On a des rochers de 2, 3, 5, 10 mètres sur notre ellipse. Oui. On a des falaises de 60 degrés qui nous posent un gros mal de tête.
Oui.
Mais on n'a pas le choix. C'est le meilleur,
Le meilleur de tous.
Oui. Et après, on a d'autres critères qui sont, par exemple, la luminosité. Il nous faut de la lumière parce qu'on veut vivre à long terme avec nos panneaux solaires.
Oui.
On veut, par exemple, avoir une communication excellente avec l'orbiteur qui tourne autour. Donc là aussi, il y a des contraintes. On ne pouvait pas se poser dans le cou de la comète parce que là, on était entre deux falaises et donc le ciel était bouché.
Ouais.
Et donc concrètement, la communication n'était pas possible. Et puis, on avait un critère scientifique qui était de savoir quels étaient les meilleurs endroits. Donc finalement, le site qui est un nom provisoire, je vous rassure tout de suite.
Oui, parce que ce n'est pas très poétique.
Non, ce n'est pas très poétique.
Il s'appelle J.
Oui, c'était le dernier
terrible.
De la liste. Et finalement, c'est l'heureux élu. Et on a un site de secours qui s'appelle C.
Ouais.
Bon, voilà. Mais donc, on est ravis. On a à peu près 80% de chances d'y arriver. Ça, c'est les calculs compte tenu des rochers et des choses comme ça. Mais on a bon ensoleillement, c'est important.
Oui.
Et donc, le site J a été assez consensuel.
Vous avez souligné le consensus général entre tous les intervenants à Toulouse ce week-end.
Non, il n'y a pas eu de bagarre pour le site. Tout le monde est arrivé à la conclusion que c'était le meilleur des 10 et le meilleur des 5. Et par contre, il y a eu un peu un débat sur le site C parce que on a des avantages et des inconvénients en fonction du C et du B qui étaient aussi en discussion.
Le C, c'est quoi alors? C'est devenu le site de repli au fond?
C'est le site de repli.
S'il y a un problème sur le premier site.
Alors, quel problème on peut avoir? En fait, c'est pas tellement. On va avoir des images à plus haute résolution, donc on va mieux voir. Mais il n'y a pas de raison que le J se dégrade plus vite que le C. Donc, de toute façon, ça va se dégrader en termes de présence de cailloux, en termes de falaises, de trous, de bosses, etc.
Ouais.
Non, c'est plutôt, par exemple, un jet qui se déclencherait. Sur le site lui-même, là, ça nous pose un problème pour l'atterrissage. Donc, on pourrait être amené à changer d'avis. Mais on va tout faire pour garder le J parce que c'est quand même le meilleur.
Bon, donc le site maintenant a été annoncé, ça y est, site d'atterrissage donc de Philae, parce qu'il faut comprendre, Rosetta, c'est la mission. Et Philae, c'est quoi? C'est le petit objet.
Philae, c'est la cerise sur le gâteau.
Voilà, c'est voilà. Philae qui va aller sur la comète.
Philae fait 1 mètre, Rosetta fait 3 tonnes, pour comparer. Donc il y a le gros et le petit. Nous, là, on parle de l'atterrissage du petit Philae sur 3 pieds. Qui va s'ancrer dans une comète avec une gravité extrêmement faible, d'un 100 millième de G. Alors Philae est aussi lié à la pierre de Rosette. Enfin, ça a aidé un peu à traduire les hiéroglyphes, d'où le lien entre Rosetta et Philae.
Oui, Philippe Amouyel, vous étiez très intéressé avant même qu'on commence l'émission. Vous posiez plein de questions à Francis Rocard parce qu'évidemment, on ne sait pas exactement à quoi ressemble une comète. Donc il y a plein de choses à faire. Et sur l'atterrissage, il y a des questions qui se posent aussi. C'est une opération très risquée.
Voilà, j'avais la notion que les comètes n'étaient pas des éléments stables, qu'ils avaient tendance plutôt à évoluer. Donc
absolument.
Envisager une arrivée avec tous ces calculs, pendant combien de temps vous allez pouvoir garder ces conditions pour justement pouvoir atterrir correctement?
Alors, c'est pour cela que depuis fort longtemps, nous savons, et on a parlé du 11 novembre, alors même si c'est pas exactement.
Ce serait la date de l'atterrissage, mais ça peut encore changer.
Ça sera définitivement fixé vers le 26 septembre.
Mm-hmm.
Mais pourquoi on atterrit si tôt? C'est qu'on est loin du Soleil et que la comète ne va pas être très active. Donc c'est ça l'intérêt de se poser très vite. Après, on va suivre la comète, escorter la comète jusqu'au passage le plus près. on pourrait assister à une destruction de la comète. Ça, c'est pas du tout, ça arrive.
Elle est à quelle distance de nous, par exemple, en ce moment?
En ce moment, on est à, je dirais, 450-500 millions de kilomètres. Elle n'est pas visible dans le ciel. Hein. Il faut vraiment les spécialistes peuvent la trouver. Elle sera malheureusement jamais visible à l'œil nu. Ça, c'est pas...
Donc elle est très très loin, le Soleil étant à 150 millions de kilomètres de la Terre. Hein. Donc on voit à peu près la distance de cette comète par rapport à nous. Mmh. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que pour l'instant, vous ne savez pas à quoi ressemble le sol de cette comète. Dans quelles conditions, justement, Philae va atterrir? Est-ce que ce sera sur un sol mou, dur, sableux? Qu'est-ce que vous avez comme information
déjà,
pour l'instant?
Déjà, on voit qu'on a des zones très différentes sur la comète. Il semblerait qu'il y ait des zones où il y a une espèce de couverture de quelque chose, coating en anglais, d'épaisseur à déterminer. Mais ça se voit sur les images, hein. Il suffit de regarder les images qui sont sur le net. Et on va d'ailleurs se poser sur cette couche un peu curieuse qui nous intéresse beaucoup. Mais effectivement, on n'est pas capable de dire si c'est mou ou si c'est dur. On pourrait s'enfoncer.
Ça, c'est fou quand même.
On pourrait s'enfoncer parce que la comète perd de la matière. Donc, il y a probablement beaucoup de vide. C'est poreux une comète. Ça a une très très faible densité. C'est la moitié de la densité de l'eau. Moins de la moitié. Donc, une comète, ça flotte, en d'autres termes. Et donc, si c'est tellement, s'il y a plein de vide, nous, on va arriver avec nos 100 kilos, on va quand même pousser sur la surface. Donc, ça pourrait fracturer la surface et finalement nous enfoncer de X.
Ouais. Quelle est l'épaisseur de cette comète, à peu près?
Alors, la comète fait dans les 4 km et demi. C'est un peu moins que le Mont Blanc. Voilà. Ouais. C'est la taille d'une montagne.
Très bien. Voilà. Alors, vous sortez justement un livre, Aux grandes pommes du savoir, aux éditions Le Pommier, Francis Rocard, qui s'appelle « Quelle est la véritable histoire du système solaire ?» C'est justement en fait toute l'idée qu'il y a derrière aussi cette mission Rosetta, c'est d'en savoir plus sur notre système solaire. C'est pour ça aussi qu'on va se poser sur cette comète. Hein. Il y a plein d'informations dont on a...
Les deux grands objectifs de Rosetta, c'est... les comètes, ce sont des corps qui sont en permanence au congélateur. Là où ça se conserve très bien, comme vous le savez. Ça n'a jamais chauffé. Donc tout ce qui est dans une comète est resté froid et depuis 4,5 milliards d'années. Donc les glaces, glace d'eau, glace de CO2, mais aussi cette matière organique, elle n'a pas évolué depuis le début.
Donc c'est l'histoire de notre système solaire originelle. Qui est enfermé au fond dans la glace.
Et deuxième objectif intéressant, c'est qu'on sait que les comètes ont beaucoup... D'abord, c'est les objets les plus riches en eau, les plus riches en carbone de tout l'univers. Et ils ont bombardé la Terre. Donc est-ce que les comètes n'ont pas apporté tout ou partie de l'eau des océans? Et est-ce que le carbone des comètes n'a pas été le carbone qui a constitué le vivant?
L'eau de nos océans sur Terre aurait pu être apportée donc par des comètes?
Probablement pas la totalité, mais une partie c'est possible.
Philippe Amouyel.
Et vous aurez les moyens de mesurer, parce que ça c'est une hypothèse qui court dans le monde biologique, que l'origine de la vie et des éléments organiques proviendraient peut-être de ces comètes. Vous avez les moyens de mesurer, de vérifier ça dans la mission que vous envoyez actuellement?
Alors justement, ça fait partie des mesures. C'est assez technique, ça passe par des mesures de rapport isotopique, deutérium sur hydrogène par exemple, ou carbone 12, carbone 13. Donc tous ces rapports isotopiques sont des signatures et on veut savoir si ce sont les mêmes que ceux de la Terre ou est-ce qu'ils sont très différents. Et donc si c'est vraiment les mêmes, on dira y a beaucoup d'apports cométaires. S'ils sont très différents, ça veut dire qu'il y a eu d'autres apports venant de... L'autre apport venant des astéroïdes. Or vous savez, on a recensé dans l'histoire 4000 comètes, c'est peu, mais 600 000 astéroïdes. Donc on compare une petite population à une très grosse population. Ouais. Donc même s'il y a moins d'eau et moins de carbone dans les astéroïdes, quelle est la balance entre les deux? Vu que les astéroïdes sont 1000 fois plus.
Je voulais juste savoir quel était.
Alors allez-y, Alexandre Desina.
Vraiment débutant.
Mais non, mais bien sûr, mais nous sommes tous débutants. Voilà. Alors allez-y.
En astéroïde et une comète, quelle est la... Voilà, pour question de débutant, mais néophyte total.
Oui, c'est une très bonne question. En fait, tout ce qui se manifeste, et ça c'est historique, par une activité, porte le nom de comète. Et les astéroïdes, c'est les petits points qui n'ont pas de chevelure, de queue, etc. Mais on s'est rendu compte que certains astéroïdes se mettaient à avoir une activité. Donc en fait, la frontière est floue. D'accord. Il y a probablement des astéroïdes qui, s'ils se rapprochent plus près du Soleil, deviendraient des comètes.
Okay. Ouais. Il y a plein de choses floues encore, d'ailleurs, dans la connaissance de l'espace, de l'univers, de notre système solaire. C'est ce que vous dites aussi dans le livre. Hein. Au fond, il y a plein de questions auxquelles on n'a encore pas de réponse.
Oui, là, dans ce livre dont vous parlez, c'est l'histoire. En fait, on se rend compte que les effets de marée, par exemple, les effets de résonance orbitale, sont les éléments majeurs qui ont structuré nos systèmes solaires aujourd'hui. Jupiter ne s'est pas formé là où elle est aujourd'hui. La Terre ne s'est pas formée là où elle est aujourd'hui. Tout ça a beaucoup bougé. Par exemple, les comètes, par exemple, du nuage de Oort, qui sont à 100 000 unités astronomiques, se sont formées plus près du Soleil que celles de la ceinture de Kuiper. Donc tout ça est assez compliqué et il y a eu beaucoup de chambardements, c'est ce que j'explique dans ce livre.
Ouais, c'est ça qu'on appelle le grand billard cosmique, Francis Rocard.
Oui, c'est ce qu'on a appelé le modèle de Nice, parce qu'Alessandro Morbidelli est la personne qui a développé ce modèle, qui montre qu'il y a eu des migrations. Vous savez, dans les planètes extrasolaires, on voit des Jupiters tout près des étoiles. Pas nous, notre Jupiter n'est pas près de l'étoile, mais la migration est un phénomène qui a énormément fonctionné ailleurs, peut-être un peu moins que chez nous, ou alors chez nous, il y a eu du grand tac, il y a eu le grand aller-retour. Ça, c'est aussi un autre modèle intéressant, ouais, qui est plus récent.
Donc et l'image du billard est pas mal. Hein,
l'image du billard est tout à fait bonne. Et puis le billard, ça éjecte les comètes dans le nuage de Oort.
Ouais. Donc là, il faut imaginer Rosetta en ce moment qui se trouve à quoi, 30 km de la comète. Il y a une sorte de balai ensemble maintenant.
Maintenant, ils sont ensemble, ils sont gravitationnellement liés, ouais, depuis peu de temps. À 30 km, on l'avait prédit et la prédiction est correcte. C'est-à-dire qu'on tourne autour, ouais, et on tourne en 14 jours. Hein, c'était des vitesses très, ouais, très lentes.
L'atterrissage donc est prévu, allez, aux alentours du 11 novembre, la date va être précisée là dans les jours qui viennent. Il faut imaginer que ça va être un événement, ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que, à l'instar du premier pas sur la Lune ou des robots sur Mars, par exemple, avec Curiosity, il va y avoir une attention très forte sur ce qui va se passer sur cette comète, au mois de novembre. J'espère qu'on va pouvoir le vivre aussi en direct sur France Inter. Il y aura une très grande soirée qui sera organisée à la Cité des Sciences, à Paris, avec beaucoup, absolument, de scientifiques. On attend 2000 personnes sur place et dans le monde entier, on aura les yeux rivés sur la comète quand même. Hein.
Je pense que le paysage de la comète va faire le tour du monde.
Oui, absolument.
Ça sera l'un des paysages les plus connus.
Avec cette mission Rosetta, dont vous vous occupez entre autres avec Jean-Pierre Bibring et beaucoup d'autres scientifiques, Francis Rocard. Pour vous, Philippe Amouyel, qui êtes épidémiologiste, vous avez des liens aussi avec l'espace d'une certaine manière. Hein. Vous avez été contacté aussi pour les missions humaines.
Ben oui, parce qu'en fait, le comportement de l'homme dans l'espace, en particulier sur les missions de longue durée, est quelque chose qui nous intéresse, parce qu'ils sont soumis à des phénomènes d'environnement qui sont différents de ceux de la Terre, du manque de gravitation. Donc on comprend mieux, par exemple, comment fonctionne un cœur qui devient rond quand il est dans l'espace, alors que normalement, il est plutôt triangulaire, simplement du fait de la gravitation.
Le cœur humain devient rond dans l'espace.
Hein. Oui, parce qu'il n'y a plus de gravité à force de rester dans ce contexte-là. Il se déforme et donc de revenir sur Terre peut entraîner des mécanismes qui se rapprochent de l'insuffisance, ouais, cardiaque ou d'autres.
Il y a des conséquences sur la santé, justement, des astronautes ou pas?
Ben oui, hein, on se rend compte que quand ils reviennent... Alors, généralement, on imagine des phénomènes de type infectieux ou autre, non, on n'a pas ce genre de choses, mais on a des problèmes musculaires, des problèmes, oui, d'équilibre, des problèmes alors qui sont probablement liés à tout ce qu'on appelle vent solaire et autres rayonnements d'atteinte de la cataracte, par exemple, de la vision. Et des problèmes osseux, alors qui sont liés aux aspects musculaires, hein, parce que la tension, ouais, des muscles sur les os crée leur solidité en particulier. Donc il y a vraiment tout un contexte à envisager, et partir comme ça pendant 2 ans pour aller sur Mars pose des questions médicales
bien
extrêmement,
sûr,
importantes.
Ouais. Voire trois ans, hein. Ce sera un long, long voyage, effectivement. Quelle est la véritable histoire du système solaire? C'est aux éditions Les Grandes Pommes du Savoir, au Pommier. Vous signez ce livre, Francis Rocard, avec Florence Chiavassa. Et vous restez avec nous, on va parler d'Alzheimer dans un instant avec vous, Philippe Amouyel, à l'occasion de la journée mondiale dimanche et de vos découvertes en matière de génétique.
De la lune, tu te réveilles la nuit et sembles manquer d'air. Tu quittes le matelas que j'avais mis par terre. Tu aimes mes chansons, mais tu n'aimes pas mon appartement. Tu n'aimes que le toit. Là où nous allons pour échapper la ville. Quand tu te sens être une mauvaise fille. C'est impossible, mais c'est réciproque. Toi ma beauté baraque, toi ma beauté baraque, toi ma beauté baraque, toi ma beauté baraque. Tes sueurs blancs, tes lèvres meurtrières ont planté dans mon lit une forêt de fleurs. Parmi laquelle je rôde parfois jusqu'à midi, je tripote les échos de nos dernières nuits. Par la gueule des dragons du Chinatown, tu m'as dit c'est impossible, mais c'est réciproque.
j'habite là où tu n'es pas. Mon voisin ronfle fort, celui que tu n'aimes pas. Le plancher de ma chambre est propre pour une fois. Viens y patiner, la place est bonne, je crois. Par la gueule des dragons du Chinatown, tu m'as dit c'est impossible, mais c'est réciproque. Toi ma beauté baraque, toi ma beauté baraque, toi ma beauté baraque, toi ma beauté baraque.
Beauté baroque, nouvel extrait de l'album du Québécois Peter Peter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Le club des têtes au carré, Philippe Amouyel, vous êtes directeur de la Fondation Alzheimer, professeur de santé publique au CHU de Lille, vous dirigez l'unité de recherche INSERM, santé publique et épidémiologie moléculaire des maladies liées au vieillissement. Et dimanche, donc, ce sera, comme tous les 21 septembre, la 19e journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Beaucoup d'animations sont organisées autour de la maladie, hein. Il y a vraiment énormément de choses en France comme ailleurs. Il y a des sites internet, hein. Il suffit vraiment de taper journée mondiale Alzheimer. On a vraiment le programme de tout ce qui se passe près de chez nous. C'est l'occasion de faire le point avec vous sur les dernières découvertes. D'abord, il y a un chiffre assez étonnant qui montre que, d'abord, il y a une accélération du nombre de cas. Toutes les 4 secondes, c'est ça, on enregistre un nouveau cas de
dans le monde, Alzheimer. Sur la planète, c'est que toutes les 4 secondes.
Toutes, hein, les 4 secondes.
Il faut savoir que c'est une maladie qui est totalement liée à l'âge, qu'on voit augmenter, non pas parce qu'elle arrive spontanément, mais simplement parce que, et c'est une bonne nouvelle, nous vivons plus longtemps.
Oui, oui.
Et c'est vrai non seulement dans nos pays, mais de plus en plus sur l'ensemble de la planète où la mortalité infantile diminue, les chances de survivre sont plus longues et surtout de vivre plus longtemps.
Alors cet hiver, vous avez publié les résultats de la plus grande analyse épidémiologique jamais entreprise sur la maladie, justement. Et depuis ces résultats, vous faites encore des découvertes. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais en matière de génétique, hein, là.
Alors, on s'est rendu compte que finalement, le terrain expliquait une grande partie de la survenue de la maladie. Donc, c'est-à-dire le terrain, c'est quoi ? Ben, c'est ce qui nous caractérise. Et ce qui nous caractérise le mieux, ben, c'est notre génome, c'est nos gènes.
Donc, c'est notre héritage génétique. Hein.
Exactement.
C'est ce qu'on a à la naissance.
C'est ce qu'on a à la naissance, c'est ce qu'on détient de nos parents et qui va nous accompagner toute la vie. Alors, qui risque d'être modifié après, c'est des mécanismes qu'on appelle l'épigénétique qui est plus complexe. Mais on a un certain patrimoine génétique qui nous prépare à des choses, qui nous prépare à résister aux maladies, qui nous prépare à résister aux maladies infectieuses ou à développer des accidents cardiaques. Donc, tous ces éléments-là, ben, pour la maladie d'Alzheimer, c'est la même chose. Et on essaie de comprendre le terrain. Alors, comprendre le terrain, pourquoi ? Non pas pour l'amour de le comprendre, mais parce qu'en fait, si je comprends quel est le terrain, je comprends les gens qui développent plus souvent que les autres des maladies, je comprends aussi ceux qui en développent moins souvent. Donc, vous voyez qu'on commence à comprendre la maladie, à déterminer des pistes qui vont nous permettre, finalement, d'avoir des idées de traitement, de prévention ou de prise en charge.
Quand on dit le terrain, on pense à quoi ? On pense aux gènes, on pense aux neurones, on pense à l'ensemble de notre organisme. C'est quoi exactement le terrain ?
Alors, en fait, à la base, c'est les gènes qui vont déterminer une certaine structure de nos neurones, certaines propriétés de nos neurones qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Alors, l'espèce neurone est la même, mais son fonctionnement varie d'une personne à l'autre. Très légèrement, mais quand vous explorez ça au long d'une vie qui va durer 50, 60, 70, 80 ans, on peut voir ces minuscules différences finalement se transformer soit en avantage, soit en inconvénient pour les maladies.
Aujourd'hui, on a les outils pour observer des gens sur 80 ans, précisément. Les premières études ont commencé quand ? Parce que c'est quand même très récent, les grandes cohortes.
Alors, les grandes cohortes, c'est récent, et la maladie d'Alzheimer, c'est récent. 1906, la première description par le neuropathologiste Alois Alzheimer. Le diagnostic réel est arrivé en 83, avec des classifications. Avant, on considérait que c'était un vieillissement normal, que c'est l'évolution de tout un chacun. On appelait ça le gâtisme, la démence sénile.
Voilà.
Et puis, plus l'espérance de vie augmente, puis on se rend compte que les gens... Il y en a qui vivent parfaitement bien jusqu'à 110 ans. Donc ça veut dire que les autres, ils ont un problème et probablement une maladie. Donc on identifie la maladie depuis les années 80-85. Alors le recul qu'on a aujourd'hui pour les meilleures cohortes, il est de 20 ans.
Oui.
Maintenant, on peut s'attendre à avoir des changements sur des termes encore plus longs.
Et quand on suit les gens sur 20 ans, on a déjà des pistes de compréhension intéressantes sur la maladie d'Alzheimer ?
Oui, alors les 20 ans, c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que depuis 4-5 ans, on s'est aperçu finalement que les gens qui développaient une maladie, mettons à 70 ans, 75 ans, en fait, la maladie avait commencé 10 à 20 ans, puisque c'est le recul qu'on a maximum, plus tôt. Oui. C'est un peu comme les astrophysiciens, quoi. Il faut qu'on se projette dans le temps et les chercheurs qui vont commencer ne sont pas forcément ceux qui vont tirer les analyses au bout du compte. Mais il faut maintenir la continuité de la connaissance dans ce contexte-là. Et ce dont on se rend compte finalement, c'est que peut-être que lorsque les signes apparaissent, en fait, ça traduit simplement le fait que notre capacité de notre corps à résister contre la maladie s'affaiblit et s'amoindrit. Donc toute la question aujourd'hui, c'est de savoir s'il ne faut pas remonter déjà 5, 10, 20 ans avant les premiers signes pour commencer à traiter.
Ouais, ça commence jeune finalement quand même, Alzheimer. C'est ça qui est un petit peu inquiétant, non ?
Alors est-ce que ça commence jeune ou est-ce que c'est un processus qui finalement est très continu et qui s'amplifie au cours du temps et dont tout un chacun a des éléments plus ou moins exacerbés qui seraient expliqués par ces notions de terrain. Donc on est plutôt sur ces logiques-là. Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose qui s'attrape à un moment donné comme un virus ou un accident cardiaque ou des éléments. C'est vraiment quelque chose qui est dans la continuité et il faut tenir compte de ça. Alors, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on ne sait pas quand ça commence, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a un certain temps pour agir.
Oui. Et alors, il y a des cas très précoces aussi d'Alzheimer. Ils sont rares, hein.
Mais en effet,
on peut observer chez des jeunes gens déjà des manifestations de la maladie.
Voilà, donc en fait, on considère que le début moyen de l'âge de la maladie, c'est après 65 ans, avec un pic à 75. Mais il existe à peu près 2% des cas chez lesquels ça commence avant 65 ans, et en particulier même ça peut commencer très tôt. Mmh. Et derrière ces formes, on a souvent une forme de transmission familiale. C'est rare, mais c'est un gène qui va venir expliquer que la maladie se transmet de génération en génération. Et avec ces formes génétiques, dans les années 90, on a commencé à comprendre comment se développer la maladie, en particulier à partir de mutations dans des gènes qui contrôlent la production d'une toute petite protéine qu'on appelle le peptide bêta-amyloïde. Et c'est ce peptide qui vient envahir le cerveau, alors très vite chez les formes jeunes, et qui va mettre 70 ans pour l'envahir chez les formes sporadiques classiques.
Oui, ça veut dire qu'il y aurait une hérédité dans certains cas de la maladie d'Alzheimer.
Oui, dans on pourrait 2% transmettre cas, il y a à ses enfants. Exactement. C'est relativement rare, ce sont des formes jeunes. On caractérise ça comme des maladies rares, comme des maladies génétiques rares. Et l'âge de début des symptômes peut être aux alentours de 35 ou 40 ans.
Alexandre Desinard, on va parler avec vous dans un instant de ce dictionnaire du nouveau français chez Alary Édition. Et quand on regarde page 38, on tombe justement, alors ça, ce sont tous les nouveaux mots qui arrivent dans le langage courant. Et Alzheimer fait partie aujourd'hui vraiment des mots employés assez facilement dans des expressions.
Oui, déjà parce que c'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes, donc on commence à connaître le nom. Et puis c'est vrai qu'on l'attribue à la perte de mémoire, le symptôme peut-être le plus évident. Et donc du coup, on qualifie d'Alzheimer nos pertes de mémoire passagères.
Voilà, et les gens disent volontiers, c'est mon Alzheimer,
quand ils oublient quelque chose, quand ils égarent leur portefeuille. Voilà.
Je crois que c'est très bien, parce que ça veut dire que quelque part, il y avait quand même une crainte forte autour de cette maladie. Hein. Ouais. Les sondages montrent qu'après le cancer, après le sida, le mal d'Alzheimer terrorise tout le monde. Donc le fait de s'habituer, de mieux le comprendre permet à la fois de diffuser l'information et puis d'intégrer les patients, parce que c'est de plus en plus de patients, c'est des familles qui ont des charges relativement lourdes, donc ça permet de sortir un peu de cet isolement.
Vous citez également cette citation, j'avais une blague sur l'Alzheimer mais je ne m'en souviens plus, voilà, c'est un grand classique populaire, hein, donc Alzheimer a fait son entrée justement dans votre dictionnaire du nouveau français. Philippe Amouyel, quand on parle justement de gènes identifiés, ce qui est votre cas, vous en êtes à combien aujourd'hui précisément?
Alors aujourd'hui on en a identifié dans les formes tardives, hein. On a identifié 3 dans les formes jeunes dont on parlait tout à l'heure qui se transmettent, mais dans les formes tardives sont des gènes de susceptibilité, c'est-à-dire vous avez la mutation mais vous ne ferez pas forcément la maladie, il faut que vous soyez avec l'environnement qui va l'accompagner. On a découvert 38 aujourd'hui. Sur ces 38, il y en a 38 moins 12 qui ont été définitivement confirmés, il y en a 12 qui continuent à être confirmés. Mais une fois qu'on a ces gènes, on n'a pas toujours le gène, on a la zone, c'est-à-dire qu'on n'est pas à quelques bases ou kilomètres près d'identification dans le génome, donc il y a tout un travail derrière avec les différentes équipes dans le monde pour identifier le gène précisément qui est en cause. Parce que si je connais le gène, je connais la protéine. Si je connais la protéine, je comprends comment ça fonctionne et je peux créer de nouveaux traitements ou mieux mettre en place des mesures de prévention.
Vous disiez gène de susceptibilité, mais c'est important de le préciser.
C'est très important, c'est-à-dire qu'on en a tous des gènes de susceptibilité pour des cancers, pour des maladies cardiaques, pour des maladies d'Alzheimer, mais tous ne s'exprimeront peut-être pas au cours de notre vie et on pourra peut-être même modifier leur expression et c'est ce qui permet des ouvertures en matière de traitement dans toutes ces affections.
Donc s'exprimer, ça veut dire justement être susceptible de faire déclarer la maladie. Quels sont justement les critères, les événements qui font que ces gènes un jour s'expriment ?
Alors, on les connaît très très mal aujourd'hui. On pense que c'est des problèmes métaboliques complexes de notre corps. Ça, c'est une première partie. Ouais. Mais il y a également des phénomènes d'environnement.
C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire.
Alors, c'est probablement ce qu'on mange, puisqu'on s'est rendu compte que certains régimes, comme ce qu'on appelle le régime méditerranéen, semblaient protégés contre la maladie. C'est également tout ce qui relève du secteur vasculaire. C'est-à-dire que les maladies vasculaires... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui survivent de maladies cardiovasculaires ou d'infarctus. Ben, ces gens-là, malheureusement, ont des risques un peu plus élevés de faire des maladies d'Alzheimer. Donc, il y a probablement un lien entre ces deux maladies et le fait de prévenir les maladies cardiovasculaires. Il y a plusieurs études qui vont pas tarder à sortir bientôt, tant à montrer que, en effet, on a l'air de réduire le risque ou de retarder l'apparition des premiers signes de la maladie. Et ça, c'est important, cette notion de retard. Pourquoi ? Parce que la maladie se développe à un âge avancé au cours duquel on va peut-être mourir d'autre chose, parce que quand même, plus l'âge avance, plus on a de chances de mourir. Et finalement, plus on repousse ce début de maladie, moins la maladie est fréquente, même si on doit la développer, et le risque de faire un cancer, un infarctus, augmente. Donc aujourd'hui, si on fait reculer le début des premiers signes de 5 ans, c'est pas beaucoup 5 ans finalement, eh ben, on pourrait réduire l'ensemble du nombre des cas de près de moitié dans le monde.
Et comment on fait ?
Alors comment on fait ? Ben,
pour gagner ces 5 années ?
Alors pour gagner ces 5 années, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre et de trouver des facteurs de prévention. Alors il y en a certains qui existent déjà, dont un qui est la sédentarité. Alors on s'aperçoit que le fait d'avoir une activité physique régulière, et actuellement il y a les Finlandais qui ont fait des études en particulier de marche nordique, dans lesquels ils ont entraîné des gens qui avaient des troubles de mémoire à la marche nordique intense 3 fois par semaine, et ils semblent repousser le début des premiers signes. Même l'activité physique quotidienne est un élément important. Alors ça agit probablement directement au niveau des neurones, ça agit également au niveau des facteurs vasculaires, donc c'est excellent. Mmh. Autre exemple, le café par exemple. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui tendent à montrer que la consommation de café est associée à une réduction ou à un retard d'apparition de maladie d'Alzheimer. Ouais.
Et pourtant, on pointe aussi le café sur d'autres problèmes. Enfin,
alors, relativement peu, finalement. Parce que quand on fait des études pour savoir, ben, puisqu'on a regardé, on s'est dit, quand on balance un message comme ça, il faut essayer de savoir si ça ne va pas avoir des effets secondaires.
Oui, bien sûr, ouais.
En fait, à part des gens qui pourraient avoir des troubles du rythme ou des maladies cardiaques, chez qui ça accélère la fréquence cardiaque, apparemment, c'est plutôt positif.
Bon, en tout cas, on peut faire de l'astrophysique aussi, parce que chez les astrophysiciens, il faut travailler très longtemps au cours d'une vie, hein, Francis Rocard. La mission Rosetta, on le disait, c'est 20 ans de travail.
Oui,
quand même,
et, on a
celui qui a commencé Rosetta,
il faut
l'imaginer.
Surtout pas avoir Alzheimer, puisqu'on a besoin de conserver toute la connaissance de la sonde, et ça, ça passe par une gestion de la documentation en pratique. Oui. Et
les premiers physiciens astrophysiciens qui ont travaillé sur Rosetta, ils sont encore en activité aujourd'hui ou malheureusement ils sont à la retraite, ils peuvent même pas profiter de ce qu'ils ont fait au départ.
Beaucoup sont à la retraite, oui. Beaucoup sont à la retraite.
Et ça, c'est un vrai problème quand même.
Alors c'est tout. Oui, oui, c'est absolument un vrai problème. Donc on a souvent des responsables d'instruments tout jeunes qui ont été désignés tardivement, voilà, parce que le précédent est retraité.
Philippe Amouyel.
Mais ça, c'est important parce que on a démontré, alors c'est dans le contexte actuel difficile à faire passer, mais que plus on repousse l'âge de la retraite, plus le risque d'Alzheimer a tendance à diminuer et la maladie à apparaître plus tard. Donc finalement, les astrophysiciens qui restent longtemps développeront moins de maladies d'Alzheimer que les autres.
Donc, c'est une bonne nouvelle. Philippe nous dit ceci sur franceinter.fr, c'est une question. La maladie d'Alzheimer peut survenir effectivement très tôt, mais est-ce que l'aluminium qui est présent dans des vaccins et certains types de produits n'est pas impliqué dans cette maladie ? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, l'aluminium, alors il y a des études qui ont comparé les autres boissons que consommaient les gens qui ont des concentrations relativement faibles ou importantes en aluminium. Et on s'est rendu compte en effet qu'une certaine quantité d'aluminium dans l'eau de boisson était associée à un risque, une augmentation du risque, mais extrêmement faible. Donc c'est des formes d'aluminium qui sont particulières et on s'est rendu compte aussi, parce qu'on parle toujours du côté négatif, il faut parler du côté positif, que celles qui consommaient un peu plus de silice ou le même type de sel étaient plutôt protectrices. Donc, et souvent il y a une balance entre les deux dans ces autres consommations, mais c'est à des niveaux de population, c'est pas au niveau du cas individuel. Hein. Je voudrais insister là-dessus. Maintenant, l'aluminium dans les vaccins, ça n'a rien à voir dans ce contexte-là, ce n'est pas associé à ce type d'affection. Le seul élément qui a été associé il y a longtemps, puis maintenant on le fait plus, c'est qu'on faisait certains filtres antimicrobiens de l'eau des dialysés à base d'aluminium. Et là, il semblait y avoir des troubles de la conscience et des troubles de confusion. Mais depuis qu'on s'est rendu compte de ça, les filtres en aluminium n'existent plus actuellement dans ce contexte-là.
Merci Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. Et donc cette journée mondiale dimanche, avec toutes les infos vraiment sur Internet, hein, c'est facile de les trouver, journée mondiale Alzheimer. Dictionnaire du nouveau français, le langage, c'est un véritable système vivant, Alexandre Desinard, hein, qui ne cesse d'évoluer au fond tous les jours.
Hein. Oui, c'est surtout avec Internet et puis la phase d'Internet avec les réseaux sociaux, une création de nouveaux mots qui sont rentrés dans les usages. Et comme on est à une époque où ce sont les usages qui font les dictionnaires et non l'inverse, Il faut les prendre en compte et il y en a beaucoup qui arrivent et on n'a pas toujours, les dictionnaires classiques n'ont pas toujours les moyens de les absorber.
C'est vrai. Donc il y avait Alzheimer, on en a parlé tout à l'heure. J'ai essayé de trouver des connexions avec nos invités, mais je n'ai pas trouvé de mot de l'espace pour Francis Rocard. Hein. C'est dommage.
Non, désolé.
Il n'y en a pas encore dans les nouveaux mots. Bon, il y a open space, mais ce n'est pas vraiment un mot de l'espace. Même si parfois on a l'impression d'être un peu en orbite dans son bureau, mais bon, voilà. Non, ça n'est pas encore rentré. Il va falloir en inventer. Peut-être qu'après Rosetta, il y aura des choses qui vont arriver. Peu... Ce serait formidable. Comment vous avez travaillé pour proposer donc 400 entrées nouvelles dans ce dictionnaire?
Alors, il y a à la fois, il faut trouver le nouveau mot, et en même temps, il faut attendre suffisamment pour qu'il y ait un nombre d'occurrences. Donc, il faut vérifier, à la fois entendre, regarder, observer, aller sur Internet, tester les moteurs de recherche.
Mais comment vous évaluez ça, enfin vraiment vous? C'est très subjectif ou au contraire vous vous basez sur des choses réelles et scientifiquement
étudiées? Au début, il y a une observation, donc c'est forcément subjectif parce qu'on ne peut pas tout voir. Mm-hmm. Mais derrière, il y a une validation sur les moteurs de recherche, dans les moteurs de recherche des réseaux sociaux, sur Google. Et puis, il faut laisser un certain temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il soit nouveau, mais il faut laisser quand même un certain temps pour que l'usage soit avéré. Mm-hmm. Et donc, c'est un mélange de ça. Ce n'est pas tellement une méthode tellement différente des dictionnaires classiques de ce point de vue-là. Il y a moins de contraintes.
Comment ils émergent alors, ces nouveaux mots en général? Ça fait partie d'un contexte social, médiatique, particulier?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils émergent de nouvelles pratiques. Et quelquefois, il n'y a pas de mot pour une nouvelle pratique. Et donc, c'est assez étrange de voir pourquoi on adopte tel ou tel mot. Mais c'est vrai que... je ne sais pas, là, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est stylet. Pourquoi on a adopté le mot stylet pour les stylos électroniques qu'on utilise sur ces Palm Pilots ou que les graphistes utilisent, alors qu'à l'origine, c'était une sorte de petit poignard. Et pourquoi on a utilisé le mot stylet? Peut-être parce que ça fait ces différents stylos, et voilà. Et donc, du coup, on a fait stylo-stylet. Mais après, quelle est la personne qui a le premier inventé ce mot? On ne l'a pas.
Ouais. Philippe Amouyel.
Est-ce que l'effet langue a un rôle dans l'apparition de ces mots? Parce que j'imagine que là, c'est des mots français, mais un stylet sur un pad, c'est dans tous les pays du monde, puisqu'il y a une diffusion mondiale. Est-ce qu'on retrouve ces éléments dans d'autres pays?
Oui, c'est surtout qu'on retrouve beaucoup l'anglais dans tous les autres pays.
Il y a beaucoup d'anglicisme d'ailleurs dans le dictionnaire.
Là, je pensais là vous voulez en venir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicisme. La moitié provient de l'anglais ou indirectement.
Je ne sais pas si vous l'avez dans votre dictionnaire, mais le selfie.
Le selfie, bien sûr.
Ah oui, il y est.
Il y est.
C'est un mot très important.
Absolument.
Ah
oui, ça, c'est intéressant. Mais ça correspond à un phénomène très particulier aussi que vous décrivez bien d'ailleurs. C'est sur cette façon aujourd'hui très auto-centrée en fait de se représenter.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est à l'époque de la mise en scène de soi. Que ça soit sur en premier lieu celle qui permet à tout le monde de se mettre en scène, c'est sur le réseau Facebook, et le selfie est l'aboutissement de cette mise en scène de soi finalement c'est un narcissisme, c'est une époque narcissique, mais narcissisme d'un nouveau type, c'est-à-dire que on doit répandre son image de soi et la valider par les autres, et le selfie pour ça c'est vraiment cette époque là en plus, et c'est un narcissisme aussi collectif parce qu'on partage son selfie avec les autres, sinon c'est juste un autoportrait. Et puis ça peut être amusant parce qu'on partage à plusieurs quelquefois. Le selfie le plus connu, celui des Oscars, il y en avait plusieurs sur le même selfie.
Oui. Alors quelques exemples de mots: implémenté, confusant, déceptif, par exemple. Ça, je crois que ce sont des mots que vous n'aimez pas beaucoup d'ailleurs.
Oui, parce que
implémenté.
C'est-à-dire que c'est la mise en scène de la science, contrairement aux vrais scientifiques que j'ai autour de moi. On fait semblant d'être un expert, et ça crée beaucoup de nouveaux mots. C'est-à-dire qu'on va créer en marketing, qui est vraiment une source de nouveaux mots, on va créer l'effet déceptif, l'effet confusant ou l'effet anxiogène d'un produit. Et on va même inventer des mots par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité d'une marque de cosmétiques pour un shampoing anti-cheveux.
Un shampoing anti-cheveux ?
Anti-chute de cheveux.
Ah, pardon.
Quand même.
Je n'aurais pas acheté celui-là.
Et il marque trois actions renforçatrices. Et ça, c'est à heure de grande écoute. Donc tout le monde entend renforçatrice. Et peut-être que ce mot va plaire et va rentrer dans les usages. Et donc ça, il ne l'est pas parce que la pub est récente, et puis pour l'instant, c'est la pub qui l'a fait. Mais c'est vrai qu'on voit monter dans les descriptifs produits de Unilever et Procter le verbe robustifier pour faire plus robuste. Et on sent que ce mot-là, il est pratique parce qu'on adopte beaucoup cette méthode anglaise qui est très efficace. On a le verbe, on fait le nom, on fait l'adjectif. Et notamment, dans ce dictionnaire, j'ai
On like aussi.
Alors ça, c'est autre chose. Mais dans ce que je disais, c'était plus candidater, qui est aussi un nouveau mot. On va dire candidater, alors qu'on a déjà le mot postuler. Et donc, c'est ça un peu les processus.
Ouais. Cordialement, c'est aussi un mot alors, qui a changé un petit peu, parce qu'on l'utilisait énormément quand même. Langage Internet.
C'est ça, c'est que je vais vous montrer, j'ai voulu me poser la question et essayer d'y répondre dans le dictionnaire, pourquoi on emploie ce mot qui existait déjà, mais qui a un nouvel usage, c'est qu'on le met à la fin de tous nos emails. Ouais. Et donc pourquoi on a fait ça? Et donc pourquoi on n'a pas mis affablement ou bien à vous? On le fait d'ailleurs, on fait aussi bien à vous, mais vraiment le truc pro, CDT. Facile, CDT, la version abrégée.
Il y a plein de gens qui vont apprendre que CDT c'est cordialement.
Puis quand on.
CDLT,
ça dépend des.
Pour ceux qui ont le temps d'écrire plus longtemps.
Et l'histoire c'est que moi je me dis que ça vient de. La première façon officielle, un peu diplomatique, de l'emploi du mot cordial, ça vient de l'entente cordiale, l'époque où, de la diplomatie d'Édouard VII qui venait, et donc on a adopté le mot cordial, et puis on l'a ressorti au moment des emails.
Exactement. Ouais. Vous avez parlé de chronophage, je crois que vous l'avez prononcé tout à l'heure, ça fait partie des mots très répandus aujourd'hui.
Oui, parce qu'en fait, ces mots révèlent ce que nous sommes. Et actuellement, on a ce sentiment d'urgence permanente, alors que c'est paradoxal, parce qu'on a une espérance de vie, vous l'avez dit, qui s'est allongée, mais on n'a jamais eu autant le sentiment de perdre du temps. Et chronophage, cet adjectif, est la preuve.
Dans les expressions, il y a vendre du rêve aussi, qui a fait son entrée dans votre dictionnaire.
Oui, j'aime bien ces expressions.
Rosetta fait vendre du rêve. D'ailleurs, on pourrait le dire comme ça. Hein.
Et ça pourrait paraître péjoratif, parce qu'on se dit, tiens, ça vend du rêve, ok, ça me raconte une histoire. Mais ce n'est pas un sens péjoratif. Vendre du rêve, ça veut dire, c'est une expression qui signifie, par exemple, quand l'acteur, une jeune tweet, Omar, tu nous vends du rêve avec ta danse dans Les Intouchables.
Oui.
Ça veut dire, merci de nous offrir ce spectacle qui est bien fait et qui nous a permis de rêver. Donc tu nous vends du rêve, tu nous proposes une prestation. Si elle est mal faite, je vais critiquer. Si elle est bien faite, je sais que c'est une mise en scène. Mais si elle est bien faite, tant mieux, elle m'a pris.
Oui. Quels sont les mots qui vous plaisent, vous, Alexandre Dizina, s'il fallait en garder un, votre petit chouchou?
Je vous dis, j'aimais bien chronophage. Et puis, en discutant aussi avec votre complice, on aimait beaucoup l'émission, le mot capillotracté.
Voilà, François Mercier.
François.
Qui a préparé
François et
mais
moi,
qui,
on aimait.
Qui est utilisé depuis un certain temps, quand
qui
même.
Qui est utilisé.
Capillotracté.
Oui, mais il n'est pas dans le dictionnaire. Donc voilà. Et il y a une époque, c'était la manie de mélanger un peu de faire du latin pour des expressions très courantes. Mmh. Et celle-là,
Est-ce que vous êtes lu par les grands dictionnaires, Robert, Larousse, etc.
Je suis commenté.
Est-ce qu'ils s'intéressent à ce que vous proposez?
Oui, je sais que...
Ils sont aux aguets, toujours, bien sûr.
Oui, celui qui a noté aussi, c'est Bernard Pivot, là, qui est quand même représentant de la langue française, a trouvé intéressant. Il trouve juste dommage que, quand le mot français, comme j'ai dit, pour candidater, existe, on n'en mette pas d'autres.
Ouais. C'est aux éditions Alary, c'est le dictionnaire du nouveau français. Alexandre Dizinard, merci d'être venu dans notre club. Allez, on termine avec un scientifique de Lyon, pardon. Bonjour Emmanuel Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce week-end auront lieu les Journées du patrimoine et parmi les sites qui seront ouverts au public, alors on aurait pu évidemment en choisir beaucoup, on va pouvoir pénétrer dans de nombreux lieux déjà dédiés à la science, mais chez vous c'est un petit peu particulier parce que vous ouvrez exceptionnellement, à l'occasion, les collections de géologie, donc de l'Université Lyon 1. Vous êtes paléontologue et co-directeur de ces collections. C'est une première pour vous de les ouvrir au public ?
Alors non, c'était les collections ouvrent pour les manifestations nationales et européennes depuis de très 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 nombreuses années. Mon collègue Abel Prieur, qui co-dirige avec moi les collections et à qui je succède, organise des visites depuis 30 ans des collections. Donc c'est pas un exercice nouveau. Par contre, effectivement, comme ce sont des collections de recherche, des collections à vocation scientifique, donc qui sont d'abord pour le public de chercheurs paléontologues, on ne les ouvre que lors de ces manifestations, Journée du patrimoine, ou Fête de la science, etc. Donc c'est pas souvent visitable par le grand public.
Voilà. Quelle est la particularité de cette collection qui, je crois, est la première de France en nombre, c'est ça ?
Alors, c'est en nombre de fossiles ou de pièces, c'est l'équivalent des collections paléontologiques du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, donc c'est à peu près 10 millions de fossiles. Avec quelques chiffres clés dans 25 000 tiroirs, dans 3 000 mètres carrés. Donc voilà, on a de très nombreux fossiles conservés dans de nombreuses pièces. Leur particularité, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'elles sont scientifiques. Donc avec notamment beaucoup de référents paléontologiques, c'est-à-dire que quand un naturaliste crée une espèce, il est créé sur la base d'un ou plusieurs objets, spécimens ou échantillons. Ces échantillons, ces spécimens sont les référents paléontologiques, donc les pièces les plus importantes, si vous voulez, les pièces aussi les plus importantes à l'échelle internationale, et donc on en conserve un grand nombre.
Donc, donc 10 millions, et parmi ces 10 millions, quelles sont les pièces maîtresses de la collection, là, pour donner envie aux auditeurs d'aller vous voir donc, à partir de demain?
Pour le grand public, alors, il n'y a pas de... Le public, on va se promener, on va se balader, si vous voulez, au gré des salles de conservation et des objets qui sont un petit peu exposés dans les vitrines et sur les murs, et puis dans les tiroirs qu'on va prendre au gré de nos des discussions. Alors, c'est de tout âge et de toute nature. Il y a des squelettes montés de cervidés, d'ours des cavernes, de siréniens, de sirènes, des restes de mammouths ou des empreintes de reptiles, de dinosaures. Il y a aussi des dendroquins, des invertébrés en tout genre. Aussi des pièces archéologiques comme les galets de la Colombière qui sont des galets gravés. C'est vraiment des objets d'art mobilier du paléolithique qui sont des pièces remarquables. Bon, après, c'est très, très varié. Très, très varié. Et puis, bon, ça, on l'organise un petit peu au fur et à mesure de la visite en fonction, encore une fois, des questions qui peuvent, et des discussions qu'on peut avoir avec le public.
Est-ce que vous avez des météorites dans votre collection ?
Non, c'est surtout... Alors, c'est les collections de géologie qui sont vraiment centrées sur la paléontologie et puis un petit peu la préhistoire, l'archéologie. Donc, pour des collections de pétrographies ou de météorites, on n'a pas d'objets de cette nature.
Emmanuel Robert, donc, c'est ouvert demain et dimanche. Il faut se rendre sur le campus de l'université ?
C'est des visites guidées commentées, donc c'est sur réservation. Donc il faut que les gens, ce qu'on fait, les gens nous contactent pour s'inscrire.
Et c'est en lien sur le site de la
Tête. Tout à fait, tout est voilà, mais tout est plein déjà. Donc voilà.
Ah ben dommage.
Il faut
s'inscrire pour l'année prochaine alors.
Pour la fête de la science à venir.
Voilà qui va commencer vendredi prochain d'ailleurs, plutôt que l'année passée. Merci Emmanuel Robert et bonne journée à Lyon. Merci à tous d'être venus dans la Tête au Carré. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Ça vous plaît, ça, Fabrice Drouel, hein ?
Bien oui, j'aime bien.
Ça s'appelle Megan Trainor.
C'est formidable de découvrir.
All
ça.
About That Bass. Voilà, c'est Jean-Michel Montus qui nous a mis ça dans l'émission aujourd'hui. De quoi on parle dans Affaires Sensibles dans quelques minutes, Fabrice ?
Vous savez que c'est la fiction. Je vous rappelle que ce sont des tranches de vie reconstituées, mais basées sur des faits réels. Aujourd'hui, c'est Alain Bombard et son combat pour inventer, imposer son idée des canots de sauvetage pneumatiques plus efficaces, selon lui, que les traditionnels chaloupes. Et notre invité, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle pour le coup.
C'est une amie de la maison, en plus.
En plus, Isabelle Autissier. Bien sûr.
Donc ce sera Affaires Sensibles dans quelques minutes. Et bon week-end, Fabrice Drouel.